Donc, j'aime beaucoup la Bible en 6 ans pour ma méditation personnelle, mais c'est aussi le texte qui me sert aussi parfois pour mes prédications. Et le texte que la Bible en 6 ans propose ce matin, l'un des textes, hein, c'est Luc 15, versets 11 à 32. Luc 15, versets 11 à 32. Et pendant que vous cherchez dans vos Bibles, j'en profite pour me présenter. Hein. Donc voilà, je suis Benjamin Angerville, pasteur de l'église évangélique baptiste de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et je vous transmets d'ailleurs les salutations de cette église. Je suis venu avec mon épouse et mes quatre enfants. Et voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer des frères et sœurs. Et c'est toujours aussi l'occasion d'apporter la parole. Et vraiment, merci pour ça. Merci pour cette invitation, Christian. Voilà, je ne vais pas vous faire une biographie hein, de ma personne, mais je vous partage juste une petite anecdote. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à cheminer dans la foi, quand je me suis converti, hein, c'est vrai que quand je lisais les textes des évangiles, je m'identifiais souvent aux pécheurs notoires, hein, vous savez, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie. Et j'ai remarqué avec le temps, que plus je lisais la parole et plus je m'identifiais aux pharisiens, aux scribes. Ces personnes qui pensaient être arrivées, tout savoir, et voilà, qui, au contact de Jésus, il y avait cette remise en question. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous, hein, mais je vous invite maintenant à lire le passage, Luc 15, versets 11 à 32. Mais avant cela, je vais prier. Et Père éternel, merci. Merci parce que tu nous connais, chacun d'entre nous, et tu nous accueilles ce matin. Tu nous connais nos histoires personnelles. Et tu nous appelles aussi à écouter ta parole. Ta parole qui nous transforme, qui nous corrige, qui nous conduit. Aide-nous à faire silence, aide-nous à nous laisser remplir de ton Saint-Esprit, afin de comprendre ce que tu as à nous dire, afin que ta parole puisse porter du fruit dans nos vies. Amen. Je lis donc Luc 15, à partir du verset 11. Puis, il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans le champ garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route hein, pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit. » Le meilleur que vous trouvez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit : « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit : « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des événements d'évangélisation, hein, soirées, concerts, cultes, week-ends, campagne d'évangélisation. Alors, quand je parle avec mes aînés, ils me parlent souvent c'est de ces campagnes de Billy Graham, je n'ai pas connu, mais je vois quand ils en parlent, ils ont des étoiles dans les yeux. Et souvent, voilà, ces campagnes d'évangélisation, ces moments, sont souvent les occasions où ce texte est utilisé. Et c'est vrai que le passage s'y prête bien. On commence souvent, lors de ces rassemblements, quand on utilise ce texte, à mettre en lumière l'attitude du jeune fils vis-à-vis de son père. Alors peut-être que parfois on va un peu loin en expliquant que le fait que celui-ci, en réclamant son héritage, considérait son père comme mort. En tout cas, dans tous les cas, il est clair que par cette attitude, le fils montre qu'il souhaite son indépendance vis-à-vis de son père, ce qui est déjà très choquant pour l'époque. Les fils avaient pour habitude de rester sous la dépendance de leur père jusqu'à leur mort. Alors, quand on regarde ce passage, on explique ensuite qu'il menait grande vie, puis qu'il n'avait plus rien. Alors ici, selon les événements, le rassemblement, selon la créativité de chacun que Dieu nous a donné, cela permet d'accentuer ce moment, qui est décrit de manière assez sobre au final dans ce passage. Mais souvent, on va imaginer qu'il était entouré de pas mal de personnes, souvent peut-être même des personnes de mauvaise vie, des personnes intéressées, et que quand il est ruiné, quand il n'a plus rien, il se retrouve seul. Cette liberté d'interprétation est encouragée par la remarque du fils à la fin du passage. « Ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées. » Alors il mène grande vie, il n'a plus rien. Et souvent on arrive à ce moment justement où le fils se retrouve à garder les cochons. Et là il est important de souligner à quel point ce qu'il fait le rend impur. Pour un juif de l'époque, garder des cochons, il n'y a rien de plus impur, il n'y a rien de pire. C'est le point culminant, il ne pouvait pas tomber plus bas. Il a été tellement loin par rapport à sa situation initiale. Alors enfin, on souligne la prise de conscience de ce fils. Il réalise la grande bonté de son père qui permet à ses serviteurs de vivre dans une condition bien plus enviable que la sienne. Et la chute de l'histoire est magnifique. Le père attendait son fils, il court, il se jette dans les bras du crasseux, il donne une fête en son honneur. Alors, peu importe comment l'histoire est amenée, travaillée, soit un théâtre, sketch, comédie musicale, on arrive toujours à ce moment où on fait comprendre aux personnes présentes que leur situation est similaire à celle de ses fils, à celle de ce fils. On leur fait comprendre que eux aussi sont loin de Dieu le Père, mais que lui ne les a pas abandonnés, qu'ils peuvent revenir à lui. On leur explique que cela est possible grâce à Jésus-Christ. Et là, on explique l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur. Là, on parle du sacrifice à la croix. Et en général, on termine avec un appel à la repentance, un appel au changement de vie. Et on rappelle à quel point il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. On rappelle à quel point il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Alors si ce texte est pertinent lors de nos rassemblements, nos campagnes d'évangélisation, il est encore aussi ce matin, il est pertinent. Peut-être que certains parmi nous se sentent loin de Dieu. Peut-être que certains ne se sentent pas dignes de Dieu, mais il est bon aussi de rappeler que voilà, Jésus-Christ nous donne cette vérité. Il s'est sacrifié pour nous. Dieu nous aime, il souhaite que nous revenions vers lui. Jésus-Christ nous montre le chemin qui mène au Père. Jésus-Christ nous ramène de la mort à la vie. Ce message est encore pertinent pour toi ce matin qui se sent peut-être loin de Dieu, qui ne te sent peut-être pas digne de Dieu. Alors ce matin, ce n'est pas un événement d'évangélisation, bien que pour ma part, une prédication est toujours l'occasion pour que l'évangile soit annoncé, proclamé et entendu. Mais je vous propose ce matin qu'on puisse passer un peu plus de temps sur le contexte global de cette parabole. Alors, juste avant de raconter cette histoire, Jésus a dit deux autres paraboles avec ce thème commun de la joie qu'il y a à retrouver quelque chose de perdu. D'abord, cette parabole avec le mouton qui est perdu, hein. Celui qui a 100 moutons, laisse les 99 et va retrouver l'autre. Et quand il la retrouve, il est dans la joie. Alors, un mouton sur 100, c'est peu, mais il y a quand même de la joie. Alors, imaginez encore plus avec cette deuxième parabole, hein, cette femme qui perd une pièce d'argent alors qu'elle n'en a que 10. Là encore, on peut imaginer que la joie est encore plus grande. Et enfin, on termine avec cette histoire des deux fils. L'homme n'a que deux fils et il en a perdu un. Il le retrouve. Là encore, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Oui, Jésus est en train de dire à ses interlocuteurs, imaginez cette joie. Imaginez cette joie qu'on éprouve quand on retrouve quelque chose. Mais justement, à qui Jésus est en train de demander d'imaginer cela? À qui Jésus demande-t-il de réfléchir? Le début du chapitre 15 nous dit, Jésus s'adresse aux pharisiens. Les pharisiens qui sont en train de voir Jésus, qui côtoient les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires. Ils sont en train de critiquer Jésus parce qu'il accueille les personnes de mauvaise vie. Les pécheurs notoires, j'aime bien cette expression, pécheurs notoires. C'est des personnes, on voit sur leur tête, on sait qu'elles pêchent. Des pécheurs notoires, c'est connu, tout le monde le sait. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette série télévisée qui passait et qui passe, je crois, encore régulièrement, Monk. Donc, alors, la série télévisée Monk nous raconte l'histoire d'Adrien Monk, un enquêteur très, très doué, un détective privé de génie qui arrive à résoudre les enquêtes les plus compliquées. Mais Adrien Monk a une particularité, il ne supporte pas les microbes, il ne supporte pas la crasse, il en a une phobie. Et parfois, on le voit, hein, lors de ses enquêtes, ça lui pose un peu problème. On a un épisode où il y a une grève des éboueurs et ça l'empêche de réfléchir, il est obligé de se mettre dans une pièce totalement fait propre, neutre, pour pouvoir réfléchir, parce que la saleté l'empêche de réfléchir. Et il y a un épisode aussi qui m'a marqué en particulier, c'est un épisode où des sans-domicile viennent le voir pour l'engager parce qu'ils souhaitent qu'il résoudre le crime de leur ami. Et ces sans-domicile qui sont sales, qui puent, rentrent chez lui. Et vous imaginez Monk, qui ne supporte pas la crasse, qui ne supporte pas les microbes, face à ces sans-domicile. Alors, j'ai envie de penser que l'attitude des pharisiens était probablement semblable à celle de Monk, vis-à-vis des pécheurs notoires. Eux qui savaient parfaitement, pertinemment, ce qu'il fallait faire pour rester purs, ne pouvait pas rester en compagnie de ces personnes dont le péché s'affiche sur le visage, dont le péché se sent rien qu'en les regardant, en les voyant, en s'approchant d'eux. Oui, les pharisiens d'un côté et les pécheurs notoires de l'autre. Jésus a déjà utilisé l'image des deux fils pour comparer les pharisiens et les gens de mauvaise vie. Alors ici, si les fils cadets représentent ces personnes de mauvaise vie qui ont soif de revenir à Dieu, hein, le fils aîné décrit bien la situation religieuse de l'époque. Alors on peut voir des légalistes, hein, qui font tout bien comme il faut, qui savent ce qu'il faut pour être pur, mais qui n'ont pas compris qui était Dieu le Père. On peut voir également cette incapacité à accueillir leurs frères et sœurs qui se repentent. On peut voir aussi également la frustration de religieux parfois. Hein. Vous voyez comment ils... Alors, on ne sait pas s'il avait des nouvelles de son frère, le texte ne le dit pas, hein, mais on voit ce fils aîné, hein, qui dit ouais, « Ton fils qui a mangé ta fortune avec les prostituées. » Lui aussi peut-être aurait voulu un chevreau, un veau gras pour partager avec ses amis, hein, ce qu'il dit à son père. Hein. On voit peut-être que derrière ce fils aîné, il y a peut-être une attitude des religieux aussi à vivre dans la frustration. la privation. Oui, on voit surtout que, à travers cette parabole, Jésus est en train de leur dire, voilà la joie que j'ai d'être avec ces pécheurs notoires qui se repentent. Voilà la joie que j'ai d'être avec ces pécheurs qui ont soif de connaître Dieu. Voilà la joie que Dieu le Père a dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Et il est en train d'inviter aussi les pharisiens à se réjouir de ses frères qui sont revenus à la vie. Alors, à la fin de la parabole, le père supplie le fils aîné de rentrer dans la maison. On peut y voir un appel à la repentance, mais c'est aussi une invitation à partager la joie du père. La parabole ne nous dit pas si le fils aîné est rentré. C'est une manière pour Jésus de laisser son auditoire réfléchir, se questionner sur leur propre attitude. Et qu'en est-il de nous ? Quelle est notre attitude face aux pécheurs notoires qui ont soif de Dieu ? Comment réagissons-nous à l'entrée de tous ces crasseux dans notre Église ? Sommes-nous comme Adrien Monk ? Sommes-nous comme les pharisiens ? Mon prédécesseur, qui était pasteur à Saint-Jean-de-la-Ruelle avant moi, était aussi aumônier aux prisons. Et je suis assez fasciné par cette capacité qu'il avait d'accueillir tout le monde. Alors, quelques-unes des personnes qu'il a visitées en prison se sont tournées vers Dieu. Il a même eu le privilège de pouvoir les baptiser. Et ces personnes continuent à graviter ou fréquenter l'Église. Et je me suis fait la réflexion de me dire, je suis content que ce soit peut-être des petits criminels. Le voleur, on n'a pas trop de mal à l'accueillir. Le violent, le meurtrier, ça commence à devenir compliqué. Et je me suis rendu compte, pour moi, le pédophile, c'était quelque chose où j'avais encore beaucoup de mal. Mais je me suis rendu compte que je faisais une sorte de classement. Il y a un niveau de crasse que je peux accepter. De quoi parle cette parabole ? D'un mort qui revient à la vie. Je me pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre les cadavres ? Est-ce qu'il y a des morts qui valent la peine d'être ressuscités et d'autres non ? Je ne sais pas, est-ce que l'état de décomposition avancé fait que la résurrection n'est plus possible ? Je me pose la question. Alors, un parallèle comme ça qui me vient, Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus. Elle est encore dans son lit, donc on peut penser qu'elle venait de mourir. Jésus a ressuscité Lazare, dont le corps, on dit, commençait à sentir. Je me pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre les ressuscités ? Cette fille qui était dans son lit et qui est ressuscitée ? Lazare qui sentait ? Est-ce qu'il a continué à sentir après sa résurrection ? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les cadavres ? Est-ce que justement un cadavre qui est en décomposition, qui revient à la vie, n'est-ce pas encore un miracle, un signe que Dieu agit ? Est-ce que justement ce corps qui continue à sentir peut-être après la résurrection ne devrait pas nous préoccuper, on devrait apporter tous les soins qu'il faut à ce corps, aider à faire partir l'odeur ? Je pose la question différemment, quels sont nos rapports entre frères et sœurs en Christ ? Peut-être que nous n'étions pas trop crasseux quand Jésus nous a appelés à lui. Peut-être que d'autres l'étaient un peu plus. Mais comment réagissons-nous avec nos frères et sœurs qui arrivent dans l'Église et qui ont encore l'odeur de la crasse sur eux ? Des gens sans éducation, des gens qui laissent leur téléphone pendant les prédications, des gens qui arrivent en retard sans s'excuser. Comment les accueillons-nous ? Est-ce que cette mauvaise odeur qui garde encore est tellement choquante pour nous, tellement bloquante, qu'on n'arrive plus à se réjouir du fait qu'ils font partie de la famille, qu'ils ont fait ce cheminement comme nous. Est-ce que l'odeur nous empêche de nous réjouir ? Est-ce que l'odeur nous empêche de rentrer dans cette maison pour nous réjouir avec eux ? Alors si comme moi vous avez aussi tendance à vous identifier aux pharisiens au fil du temps, Jésus nous rappelle ce matin, nous qui avons la mémoire courte, hein, que tout comme le fils cadet, Jésus nous a retirés de la crasse où nous étions pour nous faire asseoir à sa table. Jésus nous a sortis du trou où nous étions. C'était peut-être il y a une dizaine, vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, mais nous étions dans la crasse comme le fils cadet. Jésus nous a montré le chemin qui menait au Père. Grâce à Christ, notre Père nous a accueillis avec les bras grands ouverts. Oui, Jésus, par sa vie, par son sacrifice, nous a sauvés d'une mort certaine. Et peut-être avec le temps, avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous, hein, qui a nettoyé au quotidien la crasse, peut-être qu'on a fini par croire qu'on le méritait. Jésus nous rappelle ce matin que c'est par pure grâce que notre Père nous a accueillis, nous qui étions rebelles. Alors certes, il nous a retirés de la crasse et nous avons d'ores et déjà l'assurance d'être sauvés. Mais Jésus, par son Saint-Esprit, continue quotidiennement à nous nettoyer, à nous transformer, afin que nous puissions de plus en plus lui ressembler. Alors, peut-être que j'en fais dire un peu trop au texte, hein, vous m'excuserez si c'est le cas, mais voilà, quand ce fils cadet revient, on ne nous dit pas qu'il s'est lavé, on nous dit qu'il était avec les porcs, il arrive et son père lui met des vêtements, une bague au doigt. On ne parle pas du fait qu'il était lavé, peut-être qu'il se sentait encore, je ne sais pas. Et peut-être que ça nous encourage aussi à nous dire que voilà, il y a ce travail de sanctification qui peut prendre du temps. Peut-être que pour vous, ça a été rapide, gloire à Dieu. Peut-être que pour vos frères et sœurs, ça prend un peu plus de temps. Peut-être qu'il nous faut un peu plus de temps pour accueillir nos frères et sœurs qui arrivent avec leur bagage, avec leur crasse. Oui, ce matin, Jésus souhaite nous rafraîchir la mémoire. Nous étions tous dans la crasse. Nous étions tous morts, nous étions tous des cadavres. Et il nous a ramenés à la vie. Il souhaite aussi ce matin pointer notre manque d'amour. Ce manque d'amour qui fait qu'on ressemble parfois à ce fils aîné. On se retrouve dans l'incapacité de se réjouir pour nos frères qui nous rejoignent. On se retrouve dans l'incapacité à leur montrer de l'amour. La crasse, l'odeur qui nous dérange, nous empêche d'aimer. Ce manque d'amour qui nous empêche de voir à quel point le Saint-Esprit continue à nettoyer nos frères, tout comme il continue à nous nettoyer. Je l'ai dit, peut-être que chez certains ça va très vite, chez d'autres il faut peut-être plus de temps, plus de patience. On l'a rappelé tout à l'heure, hein. Enseigner, corriger, accompagner, encourager avec patience. La patience, hein. Fruit de l'esprit. Oui, Jésus souhaite ce matin nous montrer le manque d'amour qui nous empêche de recevoir, d'accueillir nos frères. Ce manque d'amour qui fait qu'on s'attarde uniquement sur la crasse. Bien entendu, nous sommes tous appelés à changer, à transformer. Bien entendu, nous sommes encouragés à reprendre un frère qui aurait tendance à s'égarer. Mais le fait de s'attarder uniquement sur la crasse fait qu'on ne voit plus qu'elle, sans se rendre compte à quel point celle-ci diminue petit à petit chez nos frères et sœurs. Cela nous empêche de nous réjouir. Cela met peut-être en lumière aussi certaines frustrations que nous avons, comme ce fils aîné. Oui, Jésus souhaite ce matin nous rafraîchir la mémoire. Jésus souhaite ce matin nous montrer à quel point nous manquons d'amour. Frères et sœurs, si Jésus pointe ce matin notre manque d'amour, ce n'est pas pour nous écraser sur le poids de la culpabilité. Non. Jésus met en lumière à quel point nous sommes dépendants de lui. Lui, l'amour parfait. Il nous montre à quel point nous avons besoin de son Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui pour nous laisser conduire par lui, pour nous apprendre à aimer jour après jour nos frères et sœurs qui parfois sont dans des situations plus difficiles que nous. Oui. Apprenons jour après jour à dépendre de notre Dieu. Je vous invite à un temps de silence.
Oui, Père éternel, merci, parce que tu n'as pas regardé à nos mérites, mais par pure grâce, tu nous as retirés de la crasse où nous étions. Par pure grâce, tu nous as ramenés de la mort à la vie. Père, merci pour ça. Aide-nous chaque jour à nous rappeler de cette grâce que tu nous as offerte. Père, nous voulons aussi te demander pardon, pardon parce que nous manquons terriblement d'amour et nous avons besoin de toi pour aimer. Toi qui nous as aimés, c'est toi aussi qui nous aide à aimer ceux qui nous entourent. Que tu puisses nous conduire par ton Saint-Esprit. Père, ma prière pour cette communauté, mais pour toute l'Église aussi, c'est que, comme il a été dit, nous puissions être des témoins pour les générations qui nous précèdent. Que nous soyons un. Oui, Père, notre unité passe aussi notre capacité à nous accueillir les uns les autres, par notre capacité à nous aimer les uns les autres. Et nous constatons que nous manquons cruellement d'amour. Remplis-nous de ton amour. Aide-nous à être les témoins que tu veux que l'on soit. C'est ma prière. Amen.